Vous écoutez On lit pour vous.
Les dons en action gagnent en popularité. Un texte de Julie Chaumont, paru le 13 novembre 2025 dans la presse. Au cours des quatre dernières années, Centraide du Grand Montréal a vu une augmentation du nombre de dons en action d'environ 26 %. Il faut dire que ce type de don comporte d'intéressants avantages, tant pour la personne qui le fait que pour l'organisme qui le reçoit. Entretien avec Raphaël Desrues, directeur principal, grand donateur et dons individuels chez Centraide du Grand Montréal. Qu'est-ce exactement que le don en action? Les dons en action, c'est un don de bienfaisance comme n'importe quel autre don. La seule différence est que ce qu'on va donner à l'organisme, ce sont des titres, des actions, des obligations ou des fonds communs de placement. Les trois peuvent être admissibles. Ce sont les actions en elles-mêmes qu'on donne, pas les revenus de la vente d'actions. Comment faire pour donner des actions? En général, l'organisme va transmettre un formulaire de don à la personne qui souhaite lui donner des actions. Une fois ce formulaire rempli, le donateur va le renvoyer à l'organisme et va par la suite contacter son courtier ou son conseiller financier pour donner l'ordre de transférer les actions à l'organisme. La transaction va ensuite se faire de courtier à courtier. Aujourd'hui et de plus en plus, il existe des comptes de courtage individuels, Wealthsimple, Disnat, etc. Donc, on a la possibilité de faire un don en action comme ça, mais dans l'immense majorité des cas, c'est de courtier à courtier. Un élément quand même important à souligner, à la réception des actions par l'organisme de bienfaisance, c'est la valeur de réception des actions qui va déterminer le montant du reçu fiscal émis au donateur. Donc là, il peut y avoir un décalage par rapport à la promesse qui a été faite par le donateur, car avec la volatilité des marchés, si les actions rentrent deux jours plus tard dans notre compte de courtage, il se peut qu'elles soient un peu plus hautes ou un peu plus basses que la valeur unitaire de l'action. De toute façon, le reçu est remis à la valeur à laquelle on a reçu les actions. Que font les organismes avec leurs actions? Chez Centraide, une fois qu'on a reçu les actions, on les revend. Il n'y a pas d'obligation légale de revendre les actions immédiatement, mais l'immense majorité des organismes de bienfaisance ont dans leur politique d'acceptation des dons des règles vis-à-vis de la gestion de la réception d'actions. À Centraide, on les revend immédiatement pour deux raisons. La première, c'est que les marchés sont volatiles, donc il y a un risque à garder des actions qui pourraient perdre de la valeur. Et la deuxième raison, c'est que l'argent, on en a besoin maintenant. On a besoin de financer nos projets maintenant, de soutenir les organismes maintenant. Y a-t-il des avantages au fait de faire un don en action plutôt qu'en argent? Oui. Il faut savoir que le don en action est une des formes de dons les plus avantageuses fiscalement. Comme toutes les autres formes de dons, à la réception des actions et en fonction de la valeur au jour de la réception des actions, on va remettre un reçu fiscal. Et ça, on le fait de la même façon que pour un don par chèque, par carte de crédit ou n'importe quelle autre forme de don. La différence avec le don en action, c'est que le donateur qui nous envoie des actions va être exonéré du gain en capital pour les actions. Si le donateur était amené à vendre les actions avant de nous envoyer l'argent, il sera imposé sur le gain en capital à 50 % de la plus-value. En transférant les actions directement, ça évite de payer l'impôt sur le gain en capital, donc ça fait faire une économie supplémentaire. Y a-t-il un montant minimal à respecter pour faire un don en action? Non, pas nécessairement. Toute personne qui a investi dans un portefeuille de titres peut transmettre des actions à un organisme de charité. Maintenant, on ne peut pas nier que ça s'adresse à des personnes ayant la capacité financière d'avoir un portefeuille de titres qui ne sont pas enregistrés. C'est sûr que c'est quand même limitant pour un certain nombre de personnes. C'était « Les dons en action gagnent en popularité », un texte de Julie Chaumont, paru le 13 novembre 2025 dans la presse.
Le développement durable au cœur de notre économie locale. Un texte de Réanne Cooper, publié le 4 décembre 2025 dans Le Courrier. Chaque mois de novembre, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est l'occasion de mettre en lumière les idées, les projets et surtout les personnes qui font bouger nos communautés. Cette année, en Acadie de la Nouvelle-Écosse, les activités organisées par le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse et ses partenaires ont montré une fois de plus que l'entrepreneuriat peut être profondément durable, à la fois sur le plan social, environnemental et économique. La projection du film « How She Dare » a ouvert la réflexion sur le courage et la résilience des femmes entrepreneurs. Une discussion sur l'entrepreneuriat alimentaire a ensuite permis d'aborder la sécurité alimentaire à l'échelle locale, tandis qu'un 5 à 7 intergénérationnel a rassemblé des entrepreneurs de divers horizons pour échanger sur des modèles d'affaires qui font une différence dans leur communauté. Ensemble, ces événements ont démontré que l'innovation peut être à la fois économique, sociale et profondément humaine. Dans mes chroniques précédentes, cette année, j'ai parlé d'économie circulaire, de déchets qui deviennent ressources, d'entrepreneuriat durable, du leadership féminin, de l'équité, de la diversité, de l'inclusion et ce, souvent, à travers les histoires d'entrepreneurs et d'entreprises locales. Toutes ces histoires ont un point commun. Ce sont des exemples bien concrets de ce qui se passe quand on regarde nos enjeux locaux avec une lunette durable. À l'approche du temps des fêtes, ce même esprit durable peut nous inspirer comme consommateurs. Acheter local, c'est beaucoup plus qu'un geste symbolique. C'est soutenir les familles, les jeunes entreprises, les artisans et les producteurs qui font vivre nos communautés. C'est encourager des pratiques plus responsables, réduire les distances parcourues par nos cadeaux et nos aliments, et renforcer le tissu social de nos régions. Le programme provincial Nova Scotia Loyal vient d'ailleurs faciliter ses choix en mettant en valeur les produits de la Nouvelle-Écosse et en soutenant les entreprises qui souhaitent les identifier plus clairement. En clair, il s'agit d'un programme d'acheter local, entre guillemets, qui vise à rendre plus visibles les produits authentiquement néo-écossais en partageant aussi les histoires des producteurs, transformateurs et artisans derrière ces produits. C'était Le développement durable au cœur de notre économie locale. Un texte de Réanne Cooper, publié le 4 décembre 2025 dans Le Courrier.
Prévention du suicide, gare aux outils numériques et à l'IA. Un texte de Catherine Desautels, publié le 9 décembre 2025 dans Le Devoir. Les personnes qui ont des pensées suicidaires vont, dans une même recherche sur le web, tenter de trouver de l'aide et, parallèlement, essayer de trouver des moyens de s'enlever la vie. Ainsi, les outils numériques et l'intelligence artificielle, IA, présentent à la fois des atouts et des dangers en matière de prévention du suicide. Quand on est rendu à chercher de l'aide sur Internet, plutôt que dans son entourage, c'est soit qu'on n'a pas vraiment d'accès à des ressources dans notre entourage, ou soit que notre situation s'est détériorée au point qu'on se tourne vers Internet pour chercher de l'aide. Expose Louis-Philippe Côté, chercheur affilié au Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie. CRISE. Il a expliqué comment les technologies numériques peuvent repérer et intervenir en matière de prévention du suicide dans le cadre de la deuxième édition de la Journée annuelle en santé mentale numérique qui s'est tenue lundi et qui est organisée par le Centre d'expertise en technologie de l'information en santé mentale, dépendance et itinérance. CETI-SMDI du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Cécile Bardon, professeure de psychologie à l'UQAM, qui a également donné une conférence lors de l'événement, précise que le sentiment de vouloir vivre et mourir en même temps ne s'exprime pas seulement sur le web. Dans la vraie vie, on le voit aussi beaucoup. Il y a des gens qui vont faire une tentative de suicide et appeler du secours en même temps. Les deux sont présents en même temps et la job de l'intervention, c'est de faire en sorte que le désir de vivre devienne de plus en plus important dans les pensées et les émotions de la personne de façon à ce que la personne s'engage vers des ressources et vers quelque chose pour l'aider à aller mieux, explique-t-elle en entrevue. Les informations sur le suicide, telles que des méthodes pour s'enlever la vie, sont qualifiées par des chercheurs de contenu pro-suicide. Ce genre d'informations contribue à augmenter le risque suicidaire, a souligné lors de sa conférence M. Côté, également co-directeur scientifique intérimaire au CETI-SMDI. Il n'est pas clair si l'accès à ce contenu est simple. Certaines études indiquent que trouver ce genre d'information est facile, mais d'autres études disent le contraire. L'idée qu'il faut garder en tête, c'est que « qui veut trouver, va trouver », prévient M. Côté. L'exemple des jeux vidéo. Mme Bardon, également directrice associée au CRISE, estime qu'il y a un très beau potentiel pour rendre les interventions plus efficaces, à condition de s'en servir correctement. Quand sur les réseaux sociaux, les gens trouvent de l'information sur des méthodes de suicide, c'est une mauvaise utilisation. Quand on utilise des outils d'autogestion pour pallier au manque de ressources et qu'on abandonne des gens à se gérer tout seul avec des ressources en ligne, c'est une mauvaise utilisation, déplore-t-elle. L'un des bons usages des technologies numériques est dans l'implication des intervenants sur les clavardages de jeux vidéo. Sur certaines plateformes populaires, comme Twitch, des intervenants vont publier dans les différents canaux de clavardage pour faire savoir aux utilisateurs, surtout des jeunes, qu'ils sont disponibles et ils vont interagir avec eux. Au début, on pensait que développer des outils numériques, ça allait être parfait pour rejoindre les hommes, étant donné que souvent, les hommes ont plus peur de se montrer vulnérables, de se confier, etc. On se disait que le sentiment d'anonymat qu'allait donner l'écran allait aider à surmonter cet obstacle. Mais dans la réalité, on se rend compte que les grands consommateurs des outils d'intervention numérique, c'est beaucoup les femmes, pointe M. Côté. Le rôle des hébergeurs web. Pour aider une personne en crise, il faut d'abord repérer les risques suicidaires. Il faut ensuite faire une évaluation, puis appliquer un plan de traitement. Au cours de leur vie, la plupart des gens vont vivre plus d'une période avec des idées suicidaires. Il est donc important d'avoir une gestion d'après-crise et de travailler à réduire les récurrences. Selon Cécile Bardon, l'étape du triage, qui se fait notamment par des algorithmes décisionnels sur des sites comme suicide.ca, est efficace. Cela permet de placer une personne en priorité si son état le requiert. Le repérage, c'est quelque chose sur lequel on commence à être pas mal, mais le repérage, ce n'est pas tout. Il faut qu'il soit suivi d'une vraie évaluation des besoins et une vraie prise en charge. Ça, pour l'instant, on n'a pas encore développé des outils généralisés pour faire ces étapes, détaille la chercheuse. Elle assure toutefois qu'il y a du potentiel. Il y a des outils d'intelligence artificielle qui sont développés en ce moment pour analyser les composantes non verbales du langage. Par exemple, tout ce qui est en lien avec l'énergie dans la voix, l'hésitation dans les mots, des choses comme ça qui peuvent être associées à des états affectifs de dépression et de l'affaissement émotionnel. Mais ça, ce n'est pas des outils qu'on est prêt à généraliser du tout, mais des développements comme ça peuvent être intéressants, spécifie Mme Bardon. Pour M. Côté, il faut réduire l'accès aux méthodes de suicide pour pouvoir agir en prévention. Si on l'applique aux technologies numériques, ça se traduit par plusieurs actions. La première, c'est toutes les législations qui entourent l'interdiction de faire de la promotion du suicide sur Internet. Il faut que les États votent des lois pour interdire la promotion du suicide sur Internet, dit-il. Or, cela peut être compliqué, notamment parce que les sites Web sont hébergés dans de nombreux pays et il n'est pas possible de faire appliquer les lois d'un pays partout. M. Côté croit cependant que si les hébergeurs de sites Web évaluaient que d'avoir du contenu pro-suicide avait un prix trop élevé à payer, par exemple en termes de réputation, ils seraient capables de faire changer les choses. Si vous pensez au suicide ou vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles en tout temps au 1-866 appel APPELLE. Par texto 535353 ou par clavardage à suicide.ca. C'était Prévention du suicide, gare aux outils numériques et à l'IA. Un texte de Catherine Desautels, publié le 9 décembre 2025 dans Le Devoir.
La prison, c'est mauvais pour la santé, un texte de Delphine Gauthier-Boiteau, Linda Kellil et Alexandra Larose, publié le 2 décembre 2025 dans Le Devoir. Le 12 novembre, l'enquêteur correctionnel du Canada, Yvan Zinger, publiait un rapport critique du manque d'accès à des soins de santé mentale dans les pénitenciers du pays. Il y soulignait que le système carcéral n'a jamais été conçu pour répondre aux besoins des personnes atteintes de maladies mentales graves, ajoutant que les approches axées sur la sécurité compromettent les soins, la dignité et le rétablissement des patients. En réponse à la passivité du gouvernement fédéral vis-à-vis des constats alarmants de son bureau au fil des ans, il annonçait par la même occasion qu'il quitterait ses fonctions en janvier, 2 ans avant la fin de son mandat. Presque au même moment, un dossier d'enquête en 4 volets était publié dans Le Devoir sur le manque criant de soins en santé mentale dans les prisons du Québec et sur ses conséquences. Le dossier fait état d'atteinte au droit à la santé, à la sécurité et à la vie des personnes en détention. La détresse entre les murs est alarmante. Les personnes incarcérées sont 7 fois plus à risque de passer à l'acte suicidaire que la population hors des murs. Et le Québec se démarque sombrement. Comme l'indique l'enquête du Devoir, le taux de suicide est considérablement plus élevé dans les prisons québécoises que dans les prisons ontariennes ou les pénitenciers fédéraux. Entre 2009 et 2022, au moins 98 personnes se sont enlevées la vie dans les prisons québécoises. Cela représente 38 % des 256 décès survenus durant cette période. Au moins 411 tentatives de suicide ont également eu lieu entre les murs. Face à cette réalité connue des autorités politiques et carcérales depuis des années, le nouveau ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, a récemment affirmé prendre le problème au sérieux. Qu'en est-il vraiment? Santé mentale et isolement en prison. Braquer les projecteurs sur les questions de santé mentale en prison doit nous conduire à examiner une mesure draconienne et pourtant extrêmement répandue dans les prisons québécoises, l'isolement ou le fait d'être mis en prison dans une prison. Les personnes considérées à risque suicidaire pendant leur incarcération sont très et trop souvent placées en isolement ou seules dans une cellule double. Cette mesure, censée être une mesure d'exception et de courte durée, est une pratique systémique. Le fait que celle-ci mette à mal la santé mentale et accélère le passage à l'acte suicidaire n'est plus à démontrer. L'étendue de son usage constitue une aberration. Cette question concerne l'ensemble des personnes incarcérées. Pour des raisons dites administratives, la plupart du temps en raison d'un manque de personnel, le recours à l'isolement est devenu un véritable mode de gestion de la population carcérale, en particulier depuis la pandémie de COVID-19. Le déni des droits est érigé en système. Pendant des semaines, des personnes sont enfermées dans leurs cellules de 22 à 24 heures par jour, sans préavis et pour une période indéterminée. Encore tout récemment, des proches de personnes incarcérées, alarmés par la situation dans les prisons de Bordeaux et de Rivière-des-Prairies à Montréal, nous ont contactés. Alors que l'on sait que l'isolement crée des problèmes de santé mentale chez les personnes incarcérées et exacerbe les conditions préexistantes, comment prendre le ministre au sérieux lorsqu'il dit que la prévention du suicide est une priorité de son ministère? L'impasse du soin et des logiques d'enfermement. Les personnes incarcérées doivent avoir accès à des soins de santé mentale et physique adéquats et sans délai. Les conditions de détention doivent être améliorées, notamment en ce qui a trait aux problèmes d'insalubrité et à la surcarcéralisation. Il s'agit de réduire les impacts délétères de l'incarcération sur les personnes privées de liberté qui, en théorie, conservent tous leurs autres droits protégés par nos chartes. Or, qu'en est-il? La prison est un lieu où s'exercent dans l'ombre des violences étatiques et où les atteintes aux droits sont systémiques. Il s'y perpétue un cycle de détresse et des souffrances sociales, notamment causées par les politiques néolibérales qui affaiblissent nos services publics et qui appauvrissent les populations. L'institution carcérale, où la réhabilitation est un mirage, est bâtie sur le déni des droits et de l'humanité des personnes. La logique sécuritaire y est prédominante, si bien que la prison est un lieu où le soin, au sens du souci profond pour l'autre, est impossible. Alors qu'il est urgent d'agir pour favoriser le respect et l'exercice des droits des personnes incarcérées, il est tout aussi urgent de réduire la population carcérale et de remettre en question le recours à la prison et, du même coup, à d'autres institutions qui s'appuient sur une logique d'enfermement et de coercition, comme les institutions psychiatriques, pour répondre aux problèmes sociaux. Se pose aussi, en amont de l'enfermement, la question du type de soins accessibles et des conditions dans lesquelles ceux-ci sont prodigués. Quelles sont les possibilités réelles d'avoir accès à des approches thérapeutiques ne se confinant pas au paradigme biomédical, c'est-à-dire essentiellement à une pilule? Pourquoi, comme société, continuons-nous à tolérer le phénomène des portes tournantes où des personnes bien souvent aux prises avec des problèmes de santé mentale se trouvent dans un cycle de criminalisation et d'enfermement alternant entre la prison, l'institution psychiatrique, les tribunaux et une vie en communauté assujettie à nombre de conditions judiciaires? Il est donc plus que temps que le gouvernement, s'il entend véritablement prendre au sérieux la santé mentale et le soin, met en place un plan de réduction du recours à l'incarcération au Québec en impliquant tous les ministères concernés. C'était « La prison, c'est mauvais pour la santé », un texte de Delphine Gauthier-Boiteau, Linda Kellil et Alexandra Larose, publié le 2 décembre 2025 dans Le Devoir.